Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Yilul Shamayim de Madame Nejma Kochava Bat Aisha, Zichrona Livracha, de mémoire bénie, dont c'est aujourd'hui le Yortzeit, l'anniversaire du décès. Alors notre paracha, donc dans le cadre de la rubrique Les joyaux de la paracha, notre paracha, paracha de Kitetse, lorsque tu sortiras, on sort en quoi? Kitetse Milchama, tu sortiras en guerre. Aloy Vecha, contre ton ennemi. Untano Hashem Elokecha Beyatecha, l'Éternel ton Dieu, tu le donneras dans te le donnera dans ta main, Veshavita Shivio, et tu le feras prisonnier. Bon, alors, il y a le sens simple, on parle de partir en guerre, et tous les commentateurs, presque sans exception, parlent Elul. Nous sommes maintenant, voilà, dans 3 semaines, ce soir exactement, Shem Shmor. 3 semaines exactement ce soir, au rang de Rosh Hashanah, le jour du jugement terrible. Qui me racontait encore ce Shabbat, quelqu'un m'a raconté, mon voisin il est très proche du Rav Steinman. Et il y a un livre qui vient de sortir sur Rav Steinman, fantastique, il y a beaucoup d'histoires très bien. On raconte là-bas qu'une fois il a un problème de thérapie. Alors il est venu, il a été voir le rapport pour un problème, il disait ça va, tout ira bien. Et il est revenu pour souhaiter bonne année. Il ne voulait pas parler du problème, parce qu'il a vu que le Rav était super tendu. Pourquoi super tendu? Parce que le matin, et le même soir, c'était Rosh Hashanah. Le grand de la génération, d'accord, c'est lui, il est tendu, comment nous on doit être? On doit être... Shem Yishmor. Donc, ça parle d'aujourd'hui, messieurs, dames, ceux qui nous écoutent aussi. Il faut sortir en guerre contre notre ennemi. Tu n'as pas de pire ennemi que l'Etserara. Il veut notre mort. La Gemara dans le traité Souka, page 52, il y a une page entière sur l'Etserara. On va d'ailleurs en parler de cette page-là. Il dit, il veut notre mort. On croit que des fois, il va être sympa, ça va pas trop, on laisse un peu. Il veut notre mort. Il a mis un X dessus, c'est un tueur à gage. Et si ce n'était Hachem qui est là pour nous aider, c'est ce que dit ici le verset, tu sors en guerre contre lui, tu vas partir en guerre, tu ne te laisses pas faire, alors Hachem va t'aider. Sans Hachem, on ne pourrait absolument rien faire, parce que c'est un ange, et nous on est un être humain, et l'ange, il dévore la chair, d'accord, le feu, l'ange il est fait de feu, le feu dévore la chair. Il y a une seule chose qui est faite de feu aussi contre les Sarara, c'est quoi? La Torah. Car ainsi est ma voix, discours de Dieu, comme du feu. D'accord? C'est marqué comme ça dans cette page de Gemara, traité sous page 52. Il y a un verset de la Bible que la parole de Dieu, c'est comme du feu. Donc la parole de Dieu, c'est la Torah. Quand c'est marqué, si cette ordure t'a attrapé, les Sarara, tu le traînes au Beth Midrash. Si l'effet de fer, j'ai raconté ça 40 000 fois, je le répète quand même, mais ici, si l'effet de fer, il éclate, si l'effet de pierre, ils font. Vous me direz, ils sont trompés, les sages d'Israël. Si l'effet de fer, ils font. Si l'effet de pierre, il éclate. Non, ils ont dit, si l'effet de pierre, ils font. Si l'effet de fer, il éclate. Ça veut dire quoi? Alors aujourd'hui, quand il y a des météorites qui tombent sur Terre, on analyse un peu et on voit qu'il y a des particules minérales et d'autres métalliques. Les métalliques, elles éclatent tellement la chaleur du météorite qui rentre dans l'atmosphère, elle est grande, ça éclate. Et le minéral, il fond. Ça, c'est la puissance de la Torah contre le Yetzirah. Donc pour ça, il faut sortir. Dans cette même page de Gemara, il est écrit une chose super intéressante. C'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu, il prend le Yetzirah et l'égorge. Et les tzadikim pleurent et les Rechaim pleurent. Les justes pleurent et les impies pleurent. Pourquoi les impies pleurent? Parce qu'ils disent, regarde, ce Yetzirah. Ah, c'est écrit comme ça. Pour les impies, le Sahara a l'air d'un petit cheveu. Pour les Salikim, il a l'air d'une grande montagne. L'Everest. Ceux-ci pleurent. Pourquoi ils pleurent? Les Rechaim, ils pleurent. Comment j'ai pas réussi à vaincre un petit cheveu de rien du tout comme ça? Et les Salikim, ils pleurent. Comment on a réussi à vaincre un Everest pareil, une montagne pareille? Demande les Mefarshim, décide. C'est un cheveu ou une montagne? Alors, Rav Shabtai Yudelevitch, c'était un grand magid. J'ai eu la chance de le voir une fois, il est venu parler dans ma yeshiva à l'époque. Sa femme était encore francophone, lui il est déjà décédé. Il a dit comme ça, il a dit, le Yetzer Hara, avant le péché, il a l'air énorme. Après le péché, comme un cheveu. Vous tous avez eu des épreuves avec le Yetzer Hara. Avant, tu as une envie, mais c'est terrible. C'est terrible. Tu te retiens, c'est une bagarre terrible. T'as cédé, t'es tombé, tu vas. C'était rien. Pourquoi? Le SRA, c'est de l'imagination. te fait imaginer des choses. Dans quelques jours, un mois et quelques jours, c'est Kippour. D'habitude, tout le monde a Kippour quand tu pries. À un moment, tu as une pâtisserie qui passe devant la tête. Tu n'as jamais eu ça, pas pendant Kippour, d'accord. Tu es en jeûne, tu pries, ça passe, ça arrive toujours. Bon. On rentre à la maison le soir, on va manger la pâtisserie. C'est mille fois moins bon que ce qu'on a imaginé pendant le jeûne. Le Sahara avec les femmes, d'accord? Tout le monde, ceux qui ont toutes les épreuves avec les femmes, que ce soit Zer Batala, regarder un film interdit, une vraie. C'est tout de l'imagination. D'ailleurs, les grands spécialistes savent très bien la mode, tout ça. Ils ne vont pas montrer, ils vont suggérer. La suggestion, elle fait beaucoup plus que la réalité. Parce que ça fait travailler, ça flambe l'imagination. C'est ça. Le Sahara, il n'est que imagination. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Du vent! Si tu te retiens, bah, il continue à t'attaquer avec l'imagination. Encore, encore, encore. Tu dois te battre. C'est dur. C'est une montagne énorme. Si tu cèdes, vu qu'en fait, tout ce qui t'a vendu, c'est de l'imagination, c'est rien. Sur le terrain, c'est rien. C'est rien. Tous les plaisirs, ils sont très, très courts. Et après, il n'y a plus rien. Tu n'as rien gagné. Tu as senti que tu aurais pu facilement te retenir. C'est ça, à la fin des temps. Les Sadikim, ils pleurent. Et les Rechaim, ils pleurent. Rechaim me dit, c'était un petit cheveu de rien. Quel plaisir j'ai pour finir. C'était rien. J'aurais pu le vaincre. Que de la méditation, je me suis rendu compte que c'était rien du tout. Les Sadikim qui n'ont pas franchi pour aller faire le péché, alors ils restent en bataille sans cesse, c'est une montagne énorme. Comment on a réussi à vaincre cela? Pourquoi ils pleurent? Rachid dit, parce qu'ils se souviennent de toute la souffrance qu'ils ont eue. Donc ils disent non, c'est exactement ce que dit ici la paracha. On se rend compte qu'on n'a rien fait. On est sorti et c'est Hachem nous a donné, Hachem nous a aidé. On pleure de reconnaissance à Hachem, combien il nous a aidé à vaincre le Yetzer Hara. Et comme commence la paracha avec les mots quitter de c'est lorsque tu sortiras. C'est quoi lorsque tu sortiras? Le Gaon de Vilna fait un commentaire pareil. C'est écrit, la première fois on voit le Sahara dans l'histoire, c'est le serpent originel. Il fait pécher le premier homme. Et après, il fait pécher aussi Caïn. Caïn qui va aller tuer Hevel. Et Dieu vient. Avant que Caïn tue Hevel, Hevel, son sacrifice a été reçu, et celui de Caïn n'a pas été reçu. Et Caïn, il est en déprime. Pourquoi lui et pas moi? D'accord? Alors Dieu lui dit, intuitive, 7, si tu vas faire le bien, t'en fais pas. Ça ira bien, tu vas monter, tu vas t'élever, et tout ira bien. Tu ne vas pas être déprimé. Vim, lotetiv, tu ne feras pas le bien. Le petar hatat roves. À l'ouverture, le péché se tient. C'est quoi l'ouverture? Regarde, il dit comme ça. Quitter de cette, tu sortiras. C'est à l'ouverture qu'a lieu la bataille. Si on laisse rentrer les Serrara, même un peu, c'est fichu. Tu laisses une petite entrée. Vous tous qui avez des portables, vous avez eu des portables, vous savez. Bon, je vais faire attention. D'accord? Qui, Baruch HaShem, moi, je n'ai jamais eu ça, mais j'ai eu des élèves, c'était il y a 20-30 ans, qui au début, ils m'ont dit, je défie quelqu'un qui est un portable de ne pas déraper une fois sur un film interdit. C'est presque impossible, paraît-il. D'accord? Les Serrara, tu dis, je vais tenir. Puis un jour, tric, tu tombes dans le panneau. Pourquoi tu l'as laissé entrer? Un tout petit peu. Alors tu tiens une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, tu tombes dans le panneau. Et une fois que tu tombes, tu retombes. J'ai eu ici une fois un élève, Hachem Mishmor, terrible, on a fait un camp d'été. Un bon garçon, complètement addicté aux films pornographiques, complètement. Il m'a dit, comment ça? Lui, il n'avait pas de portable, il ne voulait pas avoir un truc pareil. Et il y a eu un camp, c'est pas le nôtre, un autre. Dans sa jeunesse, tout ça, et il y a eu un concours de Torah. Et le premier prix, c'était un iPad. Et, alors ils font le concours, puis après, parmi tous les meilleurs, il y avait un tirage au sort, et celui qui gagnait, et qui a gagné? Lui, il a prié qu'il ne gagne pas, c'est lui qui a gagné le iPad. Misken. Et un beau jour, hop, il se sert à l'attaque, il regarde un truc interdit. Il m'a dit, à la fin, tu as des propositions d'autres films. Attends, c'est un truc encore pire. Et après, encore pire. Et en une après-midi, il est arrivé au fin fond du mal possible, imaginable. Addicté, déprimé. Beaucoup de gens, des gens qui m'écrivent, qui sont addictés à ce... Ils pleurent, comme les drogués, d'accord? Au début, tu fumes un peu, puis après, tu deviens addicté et tu pleures. Il te faut ta dose quotidienne. Terrible! Ils ont ni Olam Hazeh, ni Olam Haba. Ils vont en enfer et ici aussi, ils ont en enfer. Les miskinim. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas laisser rentrer. C'est ça. Quitter, c'est quand tu sortiras, C'est le pétard. À l'ouverture se trouve là-bas le péché. C'est là qu'il se trouve, c'est là qu'il faut se battre. On raconte qu'une fois, quelqu'un il a vendu sa maison, 300 000 euros. Et devant, il dit à l'acheteur, écoutez, le prix c'est 300 000 euros, c'est pour toute la maison. Moi, je vous fais un rabais, je vous la vends 200 000 pour toute la maison, sauf un petit carré sur le mur, là, au salon. Ce petit carré, centimètre carré, m'appartient. Tu lui dis 100 000 euros pour un centimètre carré, ça vaut la peine, j'ai tout l'appartement, je laisse ça. Allez, marché conclu. Top, le type, il fait Hanukkah de Bait, l'inauguration à crémaillère de sa maison, c'est bien 10 personnes, lire ce qu'il faut, etc. Et la même nuit, 2 heures du matin, toc, 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 on tape, qui c'est? Le vendeur. Écoutez, ça ne vous dérange pas, j'aimerais mettre un clou dans mon centimètre. Bon, allez-y, c'est à vous, d'accord? Il va tac, 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 il met un clou. Ok, 3 heures du matin, on tape à la porte, il va ouvrir, j'aimerais mettre mon chapeau sur le clou, ça ne vous dérange pas. 4 heures du matin, j'aimerais reprendre mon chapeau du clou. 5 heures du matin, je vais mettre mon manteau. 6 heures du matin, je vais reprendre mon manteau. Et comme ça, pendant une semaine, pour finir, le type a quitté la maison et est parti. Ça, c'est la terreur. Il te laisse-moi rentrer un tout petit peu. Après, il prend encore un peu, encore un peu, encore un peu. Le pétard, ratat rovet, le péché, il est à l'entrée. Il ne faut pas le laisser quitter de tu sortiras, il faut le vaincre. D'où on voit ce même enseignement aussi. Abraham a vu nos parents en guerre contre les 4 rois. Les 4 rois qui ont vaincu les 5 rois. Ils sont super forts. Ils ont fait la guerre contre les Sodoméens, d'accord. Et là-bas, il y avait Lot. Et ils prennent Lot, toute sa famille, et tout le butin, tous les gens, ils partent. Abraham part tout seul avec son serviteur Eliezer. D'autres disent que c'était 317, je me souviens bien. Soldats, ils sont partis et ils gagnent la guerre contre eux. Vient le roi de Sodome, lui dit, donne-moi les personnes, tous les prisonniers, et prends pour toi tout le butin. Et Abraham Avinu lève la main et dit, je jure que je ne prendrai ni chout vatrochnal, ni un fil, ni un lacet de chaussures. Les sages d'Israël ont dit, c'est une marque dans Sota, qui dit, grâce au fait qu'il a refusé de prendre le butin, alors on a eu une mitzvah qui a un fil, c'est quoi? Les tzitziot, le tzitzit, avec des fils. Et Srochna, à l'époque, les lacets, ce n'était pas des lacets en fil, c'était des lacets de lanières, d'accord, des sandales. C'est les lanières des tfilines, c'est la mitzvah des tfilines. Grâce au fait qu'Abraham Avinu a refusé de prendre tout le butin, pour pas que demain, le roi de Sodome dise, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Moi, je veux qu'il douche Hachem. C'est Dieu qui m'a enrichi, je n'ai pas besoin maintenant du butin de personne. Ok, très bien. Ah, prends pas tout le butin. Mais tu dis, je ne prends même pas un fil. Et une lanière, à cause d'un fil, une lanière, on va dire que tu as pris tout le butin. Ça, c'est la méthode juive. Rien. On ne fait aucun cadeau au Yetzer Hara. Terminé. Parce que si je dis un fil, ça peut être un deuxième fil. Et après aussi, dans les journaux qui sont des grands menteurs, on va dire déjà, le roi de Sodome a donné une très grande partie de son butin à Abraham Avinu, etc. Est terminé. S'il n'y a rien, c'est clair. On ne joue pas avec le Yetzer Hara. Il veut notre mort, il faut sortir, se battre à fond, à fond, à fond, pas laisser de place. Yaakov Avinu, il repart, quand il revient en terre d'Israël, d'accord, ils arrivent à un fleuve, ils font passer tout le monde, et il repart, et là il se fait attaquer par l'ange du mal, et le vainque. Pourquoi il est reparti? Chazal dit qu'il est reparti prendre des petits pots. Des petits pots. Pour des petits pots, tu te mets en danger comme ça? Laisse les petits pots et continue! Non, parce qu'on ne veut rien laisser au côté du mal. Avant le fleuve, c'était le côté de la vanne. Je ne veux rien laisser là-bas. On laisse rien. On se bat. Et ainsi, Bershachem, Dieu vient et nous aide, arrive à le vaincre. Alors, il nous reste 3 semaines maintenant pour se battre. Chacun doit faire son bilan, voir pourquoi il est tombé et mettre des barrières. Celui qui se dit, je ne vais pas retomber, il va retomber. Celui qui dit, je mets une barrière, il retombera aussi. Il faut mettre plusieurs barrières. Par exemple, on parlait maintenant, alors nous félicitons aussi, on fait une ovation publique à Raphaël qui a enlevé son Facebook aujourd'hui, et que ce sera, on espère, encore Instagram encore aujourd'hui, Bezrat Hashem. D'accord? Plus rien.
Supprimer le compte.
Alors, tu veux supprimer le compte, voilà, très bien. Je ne sais pas ce que c'est, mais Baruch Hashem, je suis d'accord. D'accord. En deux mots, pourquoi tu vas au bord de Yetzer Hara? Qu'est-ce que c'est avec le trou? C'est marqué que quelqu'un ne fait un péché, c'est aussi dans le traité Sota. Hein. Sota parle de la femme adultère, d'accord? Alors, c'est marqué que quelqu'un ne fait un péché que si Nirnessa Borwarshtout, que si rentrait en lui un souffle d'idiotie. Adultère, mais c'est tellement crétin, c'est tellement bête. C'est très, très souvent, à cause de ça, la femme devient interdite, le mari, toute la famille part en cacahuète, et toute leur vie, les femmes regrettent pourquoi elles ont fait, le mari, le pauvre aussi, d'accord, pourquoi ils ont fait cette grosse bêtise. Un souffle de bêtise. Disait sage d'Israël, c'est quoi un souffle de bêtise? Ça souffle. Quand il y a un vent, il y a un cours que j'ai fait qui est sorti aujourd'hui, allez le voir, c'est sur les catastrophes naturelles, d'accord. On fait un petit clip après. On voit là-bas une voiture voler dans les airs. Ting, ting, comme ça. À cause du vent, des cataclysmes naturels, d'accord. Tu as des souffles qui sont dangereux, d'accord. Le type, il va dehors, il s'est ramassé. Alors imagine maintenant qu'il y a un grand trou, d'accord, un précipice, donc il y a un gros panneau. Attention, attention, vent puissant, très soudain. Alors, à pouvoir arriver à une puissance de 300 km à l'heure. Le type qui va à côté du précipice, regardez, ben, il risque sa vie. Il dit non, mais ça va, il y a un bon air là. Mais mon cher M. Marquis, vent soudain. Viens un vent, te pousse dedans, tu tombes dans le panneau. C'est ça, c'est rare. Quelqu'un dit, bon, ça va, il ne faut pas être trop orthodoxe, fanatique, etc. Ben, on peut supporter un peu du Sahara. Non, mon cher ami, c'est un vent dangereux. Et combien de gens, parce qu'ils ne se sont pas éloignés suffisamment, sont tombés dans le panneau. Yosef al-Sadiq, c'est marqué que tous les membres de Yosef qui n'ont pas péché ont été récompensés. La main qui n'a pas touché le péché, Pharaon lui a mis le tampon du Pharaon. La poitrine qui n'a pas touché, on lui a mis le collier. La bouche, par ta bouche, tout mon peuple t'obéira. On lui a mis une couronne, tout, les pieds, on l'a pris en le chariot du roi, etc. Agmara continue et dit, Vayar Hayam Vayanos, on dit ça dans le Halel, c'est un verset de Tehilim. La mère, elle a vu, elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le cercueil de Yosef. Mon cher Rabbeinu, quand il sort d'Égypte, il prend avec lui le cercueil de Yosef. Par le mérite de Vayanos, c'est marqué le même verbe. Yosef, quand la femme de Potiphar l'a attrapé pour faire le péché, il a fui. Par le mérite qu'il a fui, la mère, elle a fui. Alors c'est bien gentil, la main, la poitrine, on lui donne des cadeaux, des bijoux, des trucs, ok, très bien. Mais qu'une mère souffre, qu'est-ce que c'est extraordinaire qu'il a fui? Khazal dit une chose extraordinaire. Elle le tente. Lui maîtrise, ça va, je maîtrise l'affaire. Elle l'attrape par l'habit. Et là, il fuit. Il fuit. Elle garde l'habit. Regardez. C'est un alibi, d'accord? Grâce à ça, elle peut prouver, il a voulu me violer, etc. Il va en 12 ans en prison, pas 12 ans, il est censé être à perpète en prison. Grâce à l'habit. Yosef, c'est une femme, t'es fort, tu lui fends une tarte ou tu prends l'habit et tu pars. Il mérite une tarte, non? Il dit, mais oui, mais je suis près du péché. Je maîtrise, mais peut-être qu'il y aura un vent. Dit Dieu aussi qui va venir comme ça, je vais faire le crétin maintenant, je tombe dans le panneau, je tombe dans le panneau! Je prends aucun risque, je fuis. Grâce au fait que bien qu'il maîtrise, il n'a pas pris de risque, il a fui, grâce à ça, la mer, elle a fui. Donc quand je me trouve maintenant près du précipice, et il y a des vents soudains, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas tomber dans le précipice? Aller à 1000 mètres. 1000 mètres du précipice, il y aura tous les vents du monde qui viendront, je ne tomberai pas dans le trou. C'est ce qu'on nous demande ici. Quitter seul à Milchama, il faut sortir, t'éloigner, tu mets des barrières, encore barrières, 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 barrières. Prends ton portable et à la poubelle, c'est la meilleure des solutions. D'accord? Je comprends que c'est difficile. En tout cas, mets des barrières qui fassent que tu n'as aucune chance, même si tu veux, de ne pas tomber dans le talon. Et ainsi, alors Hachem nous donnera, le fera dans nos mains, on pourra le vaincre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.